France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisée par Sam Bakiast et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc. Nous reviendrons sur la situation en Roumanie où l'on apprenait cette semaine le rejet définitif de la candidature de Calin Georgescu pour l'élection présidentielle du mois de mai prochain. Le candidat indépendant ultranationaliste est soupçonné d'avoir bénéficié d'ingérences russes. Lui et ses partisans qui ont manifesté leur colère en début de semaine dénoncent un coup d'État. C'est donc dans un climat très tendu que s'ouvre la campagne électorale et nous en discuterons avec nos invités. Catherine Durandin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes professeure émérite à l'INALCO. Votre dernier ouvrage porte sur la Moldavie, le défi, un pari aux éditions Petra. Et nous serons rejoints tout à l'heure depuis Bucarest par Sylvia Marton, maîtresse de conférence à l'Université de Sciences Politiques de Bucarest. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Colline Renaud.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo. Le reportage que vous publiez dans le numéro de cette semaine nous plonge au cœur du système médical des États-Unis, un système complexe et inégalitaire où les soins coûtent cher, même lorsque l'on est assuré, car l'assurance maladie est un véritable marché où les compagnies privées ont la fâcheuse habitude de privilégier leurs profits au remboursement des frais de leurs clients. Le 4 décembre 2024, Brian Thompson, directeur général de United Healthcare, l'une des plus grosses compagnies d'assurance, était assassiné en pleine rue. Son meurtrier présumé, Luigi Mangione, un jeune homme de 26 ans, comparaissait mi-février devant la cour criminelle de New York. Ce jour-là, quelques manifestants s'étaient donné rendez-vous près du bâtiment de la cour criminelle. Vous y étiez, Colline Renaud. Combien de personnes s'étaient rassemblées ce jour-là environ? Et pour quelles raisons attendaient-elles dehors en cette journée de grand froid à New York?
Oui, donc c'était le vendredi 21 février, il faisait moins 10 degrés et il y avait 300 personnes, je dirais, 300-400 personnes réunies devant la cour criminelle. En moyenne, c'était des gens plutôt jeunes, je dirais entre 20 et 40 ans. Et ce qui était absolument saisissant ce jour-là, c'est qu'il y a une vraie mania autour de Luigi Mangione. Ils avaient des pancartes où le jeune homme est présenté au milieu d'une auréole comme un saint. Il y a des fresques dans New York à son effigie. Une cagnotte a même rassemblé 500 000 $ pour payer ses frais d'avocat. Et il est considéré comme un héros par toute une frange de la jeunesse qui n'en peut plus de ce système d'assurance. En fait, Rhys, donc le directeur de Charlie Hebdo, m'avait demandé d'aller aux États-Unis pour expliquer comment fonctionne ce système. Et quand j'arrive à New York et que j'explique aux gens que je suis ici pour cela, ils me disent « bon courage, parce que nous-mêmes, on n'y comprend rien ». Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'aux États-Unis, tout le monde a une histoire avec le système de santé. Pas seulement les gens très pauvres, mais aussi, enfin, je disais, les vendeurs de hot-dogs comme les traders, tout le monde a une histoire. Et parmi les gens rassemblés ce jour-là, ils ont tous eu une mauvaise expérience un jour ou une autre avec les assurances santé. Une personne qui s'est fait mordre par un chien, qui a fait un passage aux urgences et qui a payé 2 000 $ juste pour désinfecter la plaie. Une jeune femme qui a eu de l'eczéma et qui a dû débourser 3 000 $ pour payer sa crème et qui n'a pas été remboursée par les assurances parce que ça a été considéré comme un soin de confort. Et donc, toutes ces personnes-là, elles avaient toute une expérience plus ou moins grave, mais en tout cas suffisante pour les mettre en colère et les conduire à soutenir un meurtrier.
Et ces personnes-là ne sont pas forcément originaires de New York. C'est ce petit groupe de manifestants qui était devant donc la cour criminelle où comparaissait Luigi Mangione. Vous rencontrez Leila, par exemple. Elle a 19 ans. Elle arrive de Buffalo. C'est à plus de 600 kilomètres. De quoi témoigne-t-elle?
Oui, alors Leila, elle était là dès 6 heures du matin, toute seule avec sa pancarte Free Luigi à ce moment-là. Et en fait, Leila est très en colère parce que son père souffre de diabète et l'assurance ne lui rembourse pas ses ampoules d'insuline. Il en prend 3 par jour, à raison de $80 l'ampoule. Et elle me dit, lui-même n'aurait pas fait... les gens sont tellement habitués à ce système de santé qu'ils ne se rendent pas compte que ça n'est pas normal et que ça ne fonctionne pas comme ça dans tous les pays. Et elle me dit, lui, il ne serait jamais venu, mais moi, j'ai fait les 600 km pour dire que non, mon père ne devrait pas payer $150 par jour pour survivre.
Alors, vous le disiez, c'est un système complexe. En quelques mots, peut-être rappeler que le système d'assurance maladie aux États-Unis, il ne concerne qu'une petite catégorie de personnes. Il y en a deux. Il y a le Medicare pour les plus âgés et les plus handicapés, le Medicaid pour les plus démunis. Est-ce que ça veut dire que pour tous les autres, c'est l'assurance privée ?
Oui, alors en fait, il y a 3 catégories de personnes. Donc il y a une petite partie de la population qui est éligible à ces systèmes de santé qui existent depuis les années 60, donc Medicare et Medicaid. Mais ça concerne, donc déjà leur nombre varie selon les États. Plus l'État est conservateur, moins ça va concerner de personnes. Mais ce sont en général les gens les vraiment extrêmement âgés ou extrêmement malades. Les autres personnes sont assurées par leur employeur. Mais il y a tout un ventre mou de personnes qui sont trop riches pour pouvoir bénéficier de Medicare ou de Medicaid et trop pauvres, à l'inverse, pour pouvoir s'offrir une assurance privée. Il faut savoir qu'il faut débourser entre $200 et $600 par mois pour pouvoir être assuré.
Donc ça, c'est le premier. Ces chiffres-là, ils reviennent souvent dans les témoignages que vous recueillez. Je paye entre 200, 400, $600 par mois pour mon assurance privée. Et ces mêmes personnes vous disent, et pourtant, ce n'est pas une garantie que je vais être remboursé et couvert correctement en cas de pépin de santé, grave ou pas grave. Vous évoquiez une crème pour l'eczéma à 3000 euros, une morsure de chien, on va à l'hôpital et on est facturé de 2000 euros et on n'est pas remboursé. Donc comment expliquer ce paradoxe d'une assurance à la fois extrêmement cher et de soins très peu couverts.
Oui, en fait, il y a deux niveaux de problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a 20% de personnes non assurées aux États-Unis, mais les personnes qui sont concernées par des dettes médicales, la plupart du temps, ont une assurance. Parce que aux États-Unis, les remboursements ne vont pas être systématiques et les assurances privées décident si elles vont ou non rembourser tel ou tel soin. Et plusieurs études ont montré que, par principe, elles refusent. Et après, si on monte un dossier, elles vont peut-être finir par accepter, mais elles vont prendre n'importe quel prétexte pour refuser le remboursement. Elles vont dire qu'il s'agit d'un soin de confort ou que le médicament n'a pas fait ses preuves ou alors qu'il y a un problème administratif, qu'il manque un papier dans le dossier. Donc, elles refusent de rembourser des soins, même si on paye chaque mois pour son assurance. Il y a d'autres dispositifs, par exemple, elles vont dire, on vous rembourse à partir de $10 000 de frais. Donc vous devez d'abord payer $10 000 et après elles vont vous rembourser. Donc en fait, les gens sont extrêmement en colère parce qu'ils se rendent compte que ce sont des entreprises à but lucratif qui veulent dégager du profit. Et ça a des conséquences puisqu'on estime que 40 000 personnes meurent chaque année à cause de ce système d'assurance. Parce qu'ils ont pris du retard dans leur prise en charge le temps que l'assurance...
D'une chimiothérapie,
voilà,
par exemple.
Voilà, ça, par exemple. L'assurance va dire non, on ne vous rembourse pas la chimiothérapie. Ils vont finir par accepter 6 mois plus tard, sauf que ces 6 mois auront été fatales.
C'est ce qu'on appelle aux États-Unis une pratique du denying, le refus ou le déni de remboursement. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire.
C'est ça. C'était le slogan de ces personnes qui manifestaient. C'était « Stop denying, people are dying ».
Colline Renaud, vos reportages vous emmènent également à Nashville. Alors là, on est dans c'est la capitale de l'État du Tennessee et on qualifie parfois Nashville de capitale de l'industrie médicale. Pour quelles raisons ?
Oui, alors Nashville, c'est la ville de la country, c'est la ville d'Elvis Presley, mais c'est aussi la ville du libéralisme médical. Parce qu'en fait, c'est la ville des États-Unis où il y a la plus grande densité d'hôpitaux privés. Les grandes chaînes d'hôpitaux, de cliniques privées y ont leur siège, notamment HCA qui est le plus grand groupe hospitalier du monde. Il y a 900 start-up médicales à Nashville. Donc autrement dit, sur le papier, si un endroit où vous pouvez être bien soigné et trouver des très bons chirurgiens, c'est Nashville, à condition de pouvoir payer. Et justement, je suis allée à l'hôpital public pour voir comment ça se passe pour ces personnes qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans ces cliniques privées.
Et alors, cet hôpital public, le General Hospital, c'est un lieu que vous décrivez dans vos reportages comme quasiment désert, un service d'urgence où il n'y a pas d'attente, où il n'y a pratiquement pas de patients, des couloirs vides. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus cet endroit un peu étrange et pourquoi l'hôpital est-il vide ?
Oui, en fait, ça a été toute mon interrogation. J'étais assez surprise parce qu'empreinte de l'imaginaire qu'il y a autour des hôpitaux américains, notamment liés aux séries médicales, j'avais des hautes attentes en fait de l'hôpital
et un endroit effervescent.
Voilà, c'est ça, avec beaucoup d'action. Et là, en fait, j'arrive dans un hôpital assez petit, une tour blanche qui ne paye pas de mine. Et à l'intérieur, en fait, ça ressemblait à un hôpital français.
C'est-à-dire
le même côté un petit peu désuet, exactement les mêmes sièges dans la salle d'attente, les mêmes peintures pastel au mur. Et en fait, il n'y avait personne. Donc, c'était imaginer un hôpital français où tout le monde aurait disparu. Et vous êtes au General Hospital de Nashville. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc, l'hôpital me vantait leur système de tri très efficace, leur laboratoire qui marche très bien. Et il me disait, c'est pour ça, on est très efficace et il n'y a pas la queue aux urgences. Mais ça me chiffonnait, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui ne me disait pas. Et en fait, c'est en comprenant comment fonctionne cet hôpital public que j'ai compris pourquoi il n'y avait personne.
Alors, précisément, comment fonctionne cet hôpital? Ou peut-être plutôt, pourquoi les patients ne viennent-ils pas? Que craignent-ils à se rendre à l'hôpital public de Nashville?
Et non, après, j'ai rencontré justement le PDG de l'hôpital qui m'a expliqué que cet hôpital n'est pas subventionné par l'État du Tennessee ou par le gouvernement fédéral. Donc, ils sont obligés d'être compétitifs, d'être viables économiquement. Et pour cela, ils font payer 60% de leurs patients. Sauf que quand vous êtes admis dans cet hôpital, vous ne savez pas si vous allez payer ou pas. Donc, ça a deux effets. Les personnes qui ont une assurance et qui savent qu'ils vont payer dans tous les cas préfèrent aller dans un hôpital privé parce que l'hôpital public a mauvaise réputation, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et les personnes, à l'inverse, qui n'ont pas d'argent, redoutent d'être facturées, puisque pour ne pas être facturées, il va falloir monter un dossier. Et donc, elles préfèrent ne pas se faire soigner ou aller dans des dispensaires. Et donc, on se retrouve avec un hôpital public de 150 lits, ce qui est relativement peu. En Nashville, c'est 700 000 habitants. Mais même cet hôpital public est vide.
Alors, vous dites hôpital public, mais si l'hôpital ne reçoit ni financement de l'État fédéral, ni financement de l'État du Tennessee, qu'a-t-il de public ?
Alors, il est financé un petit peu par la ville de Nashville, mais surtout, il est ce qu'on appelle un safety net hospital. C'est un hôpital qui va accueillir comme une partie de ses patients, qui va les exempter de payer pour leurs soins, qui va donc accueillir davantage de personnes démunies et surtout qui n'a pas pour objet de faire du profit, ce qui est le cas des autres hôpitaux. Et c'est ainsi qu'ils m'expliquent qu'ils ont plusieurs, que leur but, eux, c'est d'avoir des projets sur le long terme pour que les gens restent en bonne santé et ne viennent pas à l'hôpital faire des procédures coûteuses, là où un autre hôpital a plutôt intérêt à faire ce genre de procédures.
Oui, il y a donc un système de prévention avec aussi des médicaments qui peuvent être mis à disposition gratuitement et on a vu à quel point ils coûtaient cher. Et ça ne suffit pas à redorer sa réputation et à faire venir des patients, visiblement.
Non, apparemment pas. Et à l'inverse, je suis allée ensuite dans un dispensaire tenu par des étudiants en médecine qui m'ont expliqué qu'ici, ils reçoivent les patients sans avoir à remplir de dossier, sans aucun risque d'être facturé. Et c'est là, en fait, que les personnes les plus en difficulté vont. Parce que quand vous êtes malade, que vous parlez mal la langue, parce qu'il y a une énorme population latino à Nashville, par exemple, vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas d'argent, vous avez peur d'être facturé, vous êtes malade, vous n'êtes pas en mesure de remplir un dossier pour peut-être, à la fin, espérer avoir une remise. Donc, en fait, dans ce cas-là, vous allez dans des dispensaires tenus par des étudiants et payés grâce à la charité. Sauf que ça ne suffit pas, en fait. Ces étudiantes me disaient, ils suivent 300 personnes et ils reçoivent 10 appels par jour de personnes qu'ils doivent refuser.
Alors, ce dispensaire, donc là, on est en périphérie de la ville. Cette clinique ou dispensaire, je ne sais pas comment il faut l'appeler, s'appelle Shed Tree. Et donc, juste pour bien comprendre le fonctionnement de ce lieu, ce sont des étudiants en médecine qui le tiennent. Ce sont uniquement des étudiants, il n'y a pas de professeurs. Et est-ce que c'est du bénévolat, de l'engagement volontaire ?
Oui, ce sont des jeunes qui donnent 2 à 3 soirs par semaine pour recevoir en consultation des patients. Ce sont des étudiants plus ou moins jeunes, mais les deux jeunes filles, deux jeunes femmes qui tiennent l'établissement sont en troisième année de médecine. Mais il y a aussi des médecins, des internes qui ont des spécialités comme pneumologue, orthopédiste, qui eux aussi assurent des consultations. Mais ça permet de faire un suivi de santé, disons de médecine générale ou alors de consultation libérale, mais il n'y a pas d'opération, donc ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas se substituer au travail d'un hôpital, évidemment.
Mais c'est la question que j'allais vous poser, que font-ils en cas face à des cas graves ou à des cas qui requièrent des opérations plus ou moins complexes, où renvoient-ils les patients dans ces cas-là?
Eh ben, c'est là, en fait, tout se joue à la négociation. C'est-à-dire que ces étudiants en médecine m'ont expliqué que lorsqu'un patient va avoir besoin d'une intervention coûteuse, ils vont voir à la fin de leur cours leurs professeurs d'université, qui en général est aussi chirurgien ou je ne sais pas, et ils vont lui demander s'il accepte de faire l'opération gracieusement. Et parfois ils acceptent, parfois ils n'acceptent pas. Donc en fait, c'est ça qui est assez étrange, c'est que tout se joue à la négociation, au système D.
Au cas par cas.
Au cas par cas. Voilà, c'est ça. Les hôpitaux vont décider au cas par cas de faire une remise. Un tel ou tel médecin va accepter d'opérer ou de faire un traitement coûteux en mobilisant une équipe de volontaires. Mais en fait, ça fonctionne, mais ça fonctionne pour une certaine partie des personnes, et surtout c'est terriblement incertain et très anxiogène pour les Américains.
Et dans ce dispensaire, dans la périphérie de Nashville, vous rencontrez Kiss. Il a 60 ans, il vous explique qu'il a longtemps dû choisir entre nourrir sa famille et se soigner, mais désormais il ne peut plus nier ses problèmes d'hypertension, alors il s'est rendu dans ce dispensaire. Quel regard, lui, il porte sur la situation ?
Kiss, il a renoncé à souscrire à une assurance car il en avait une au début de sa vie et il est tombé malade et on lui a demandé de payer tout de même, donc ce qu'on disait tout à l'heure qui arrive très régulièrement. Donc à partir de ça, il a décidé qu'il n'aurait plus d'assurance et je lui demande comment il se sent par rapport à ce système et il me répond « Ce système n'est pas injuste, il y a des perdants et des gagnants et moi je fais partie des perdants. »
C'est tout.
Voilà. Qui est très, très américain comme réflexion et qui était assez terrible parce qu'en plus ce monsieur est à la tête d'une entreprise funéraire, il travaille et il se fait soigner dans un dispensaire.
Vous le disiez, il y a un système de solidarité, de charité qui est assez actif aux États-Unis et notamment à Nashville et qui n'est pas suffisant pour répondre aux besoins, mais néanmoins qui existe. Vous dites dans votre article qu'il y a une vraie culture de la charité aux États-Unis et vous la voyez aussi auprès d'associations qui aident les personnes qui se sont surendettées pour payer leurs soins de santé. Vous y rencontrez Michelle Johnson. Quel regard elle porte sur le système médical américain ?
Michelle Johnson, elle s'est attelée à une tâche assez compliquée, c'est-à-dire qu'elle fait la chasse aux assurances pour les forcer à rembourser des soins et elle essaye de faire ce que la plupart des Américains sont incapables de faire, c'est-à-dire d'aller voir dans le dossier les points où légalement les assurances ne sont pas dans leur droit. Et elle me parle du cas d'un jeune garçon de 11 ans qui avait une tumeur au cerveau et les assurances ont refusé de payer pour son opération pour retirer la tumeur sous prétexte que sa mère, qui avait 3 emplois différents, n'avait pas le même salaire tous les mois. Et donc elle s'est battue auprès de son assurance pour les forcer à payer et le jeune garçon a fini par être opéré au bout de 6 mois. Donc encore une fois, il y a une perte de chance terrifiante.
Merci beaucoup Colline Renaud. Votre reportage « Survivre aux États-Unis, un marché comme un autre », c'est à lire dans le numéro de Charlie Hebdo en kiosque cette semaine jusqu'à mercredi prochain. Merci beaucoup d'être venu dans le retour d'eux.
Au revoir.
gens meurent tous les jours. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Je pense simplement qu'ils devraient se tenir bien tant qu'ils sont, se sentir bien tant qu'ils sont en vie. Les paroles de la chanteuse, musicienne, autrice, compositrice, interprète Penelope Scott dans cette chanson American Healthcare, sortie en 2020. Et c'est avec ces mots qu'on quitte les États-Unis direction la Roumanie.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et il ne s'agit plus de savoir qui se présente, mais de la démocratie qui a été bafouée de toutes parts. D'une certaine manière, on montre directement aux gens que nous vivons dans une grande dictature. Je veux dire, où sont les droits de l'homme ? Il ne s'agit plus de savoir qui soutient un camp ou l'autre. Il s'agit de savoir que nous sommes un peuple et que nous avons le droit de voter pour qui nous voulons. Et rejeter un candidat avec 350 000 signatures n'est ni juste ni normal. C'est pourquoi tous ces gens sont ici, rassemblés dans les rues pour les droits que nous avons légitimement, les droits que nous devrions avoir. Ils n'existent plus, ils ont disparu.
Je suis ici maintenant parce qu'ils ont rejeté la candidature de M. Georgescu. Il est l'esprit du peuple roumain, comme vous pouvez le voir à travers toutes les personnes ici présentes. Nous protesterons certainement si M. Georgescu ne se présente plus ou si sa candidature est arrêtée.
Témoignage de manifestants recueillis par la chaîne belge L24 à Bucarest cette semaine, où les partisans de Calin Georgescu se sont rassemblés pour protester contre l'invalidation de sa candidature à la présidentielle. Le candidat indépendant d'extrême droite, anti-OTAN et admirateur de Poutine, était le grand favori des sondages. En novembre dernier, il avait créé la surprise en arrivant au premier tour de l'élection présidentielle avec 22% des votes. Un scrutin finalement annulé par la Cour constitutionnelle à la veille du second tour suite à des accusations d'ingérence étrangère dans la campagne. Une décision qui avait provoqué la colère de ses soutiens. Dans quelles conditions la campagne va-t-elle pouvoir se dérouler à présent ? En quoi la crise actuelle est-elle un test pour les institutions démocratiques roumaines ? Comment le contexte géopolitique pèse-t-il sur ce pays membre de l'OTAN qui partage une frontière avec l'Ukraine ? On en discute avec nos invités, Catherine Durandin qui est avec nous en studio et Sylvia Martin qui nous a rejoint depuis Bucarest, maîtresse de conférence à l'Université de Sciences Politiques de Bucarest et que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On commence la discussion comme chaque vendredi avec l'édito de Marc Semo.
Oui, merci Mélanie. Alors, que faire si une élection démocratique entérine l'envolée électorale d'un candidat anti-système manipulé par deux puissances étrangères hostiles, l'une étant l'éternel ennemi, la Russie, mais l'autre, les États-Unis, est censé être sa plus puissante alliée. Alors, c'est le dilemme depuis bientôt 6 mois de la Roumanie, qui traverse sa crise politique la plus grave depuis la fin de la dictature nationale communiste des époux Ceaușescu. Alors ce pays de l'Union européenne et de l'OTAN, comme tu le rappelais, occupe une position stratégique clé au sud-est de l'Europe, limitrophe de la Turquie et sur la mer Noire. Il est devenu le terrain d'une implacable guerre hybride lancée par Moscou, mais surtout le laboratoire politique d'une alliance inédite, de fait, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Voir ce dernier soutenir un candidat populiste turiféraire de sa dictature est dans l'ordre des choses. Mais Calin Georgescu, arrivé par surprise en tête du premier tour lors de l'élection présidentielle de novembre, bénéficie aussi de l'appui ouvert du vice-président américain Jill Evans et d'Elon Musk qui a émis une bonne demi-douzaine de tweets en sa faveur. Georgescu a été une seconde fois mis hors jeu par la Cour constitutionnelle pour de graves irrégularités et des menaces à l'ordre constitutionnel, mais l'extrême droite risque à nouveau d'engranger de gros scores profitant du ras-le-bol dégagiste d'une opinion jusque-là très pro-européenne. L'objectif commun est assumé de Poutine comme de Trump, et d'affaiblir une Union européenne qu'ils honnissent en favorisant en Roumanie, comme dans d'autres pays de l'Europe orientale, l'émergence de démocrates illibéraux à leur botte. Ils le font par la guerre informationnelle et les réseaux sociaux. Mais ces thèmes xénophobes, complotistes, ultra-conservateurs trouvent un écho profond dans l'opinion 30 ans après le retour à la démocratie. Et lors du premier tour de l'élection présidentielle, où Georgescu avait recueilli 22% des voix, les Roumains de la diaspora avaient, eux, voté à 40%, 43% pour lui, ce qui est extrêmement préoccupant, parce que les Roumains de la diaspora, traditionnellement, avaient toujours voté, logiquement, pour les partis pro-européens et libéraux.
Merci beaucoup, Marc Semo. Et je voudrais qu'on commence avec vous, Sylvain Marton, depuis Bucarest. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un aperçu de la situation dans la capitale aujourd'hui et ces derniers jours? Est-ce que des manifestations ont encore eu lieu comme en début de semaine, ou bien est-ce qu'on assiste à un retour au calme depuis aujourd'hui?
Les manifestations ont eu lieu, mais elles n'ont pas été massives. Il faut souligner ça d'emblée. Par exemple, lors du dépôt de candidature, Calin Georgescu, quand il a redéposé sa candidature, ensuite, quand le bureau électoral central a refusé sa candidature, donc il y a eu des citoyens, des supporters de Georgescu qui se sont réunis, mais ce n'a pas été massif. Les forces d'ordre ont été présentes, ont manifesté, ont mis en scène les forces d'ordre, leurs forces, d'une manière assez très visible, qui a un peu irrité les participants, à juste titre. Mais à part cela, donc, les rues sont calmes de ce point de vue.
Quels étaient les mots d'ordre parmi les manifestants, Sylvia Marton? Qu'est-ce qu'on pouvait lire sur les pancartes?
Les mots d'ordre, les pancartes pleines de... Vous avez raison, il y a eu énormément de pancartes, donc une iconographie et une production textuelle aussi, donc les drapeaux déjà, le tricolore, et ensuite une production textuelle richissime. Et comme vous le soulignez votre confrère tout à l'heure, non, en effet, les partisans de Georgescu et des mouvements qui sont autour de lui ultranationalistes se font les porte-parole de la démocratie, se définissent comme des partisans de la démocratie. Ils dénoncent la dictature de l'État profond, la dictature de l'État, des actions de l'État, voire le mot totalitarisme a été utilisé par Georgescu. Il est en lutte contre l'État totalitaire, le nouveau État totalitaire qui interdit sa candidature et celle de ses proches éventuellement. Donc c'est une contradiction du discours. Ils se font les défenseurs de la démocratie, ils sont des pro-démocrates, mais en même temps, ils continuent le même discours sur les réseaux sociaux, sur les pancartes, lors de la manifestation, qui porte donc un discours qui est xénophobe, antisémite, qui véhicule toutes sortes de théories de la conspiration, qui véhicule toutes sortes de solutions rapides à des problèmes extrêmement complexes d'ordre interne ou d'ordre international. Donc cette tension, c'est une tension cognitive, je dirais, visible dans leur discours, mais cela ne les empêche pas de jouer le rôle de grands défenseurs de la démocratie.
Catherine Durandin, quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer en ce moment en Roumanie et sur ces manifestants? Parce qu'il y a les manifestations qui ont lieu depuis cette semaine, depuis la mise hors jeu, comme disait Marc, de Calin Georgescu. Mais ces manifestations, on les avait déjà vues dès le mois de novembre, dès l'annulation du premier tour du scrutin. Comment est-ce que vous observez ce mouvement politique et ces mots d'ordre de coup d'État, d'énonciation de coup d'État, de totalitarisme de la part de mouvements d'extrême droite?
Oui, sans oublier que Georgescu qualifie l'Europe de tyrannie. Mais il est vrai que Trump qualifie Zelensky de dictateur. Donc je crois qu'on est dans le monde à l'envers. J'ai l'impression de traverser une sorte de cauchemar qui serait drôle si ça n'était pas épouvantable. Et Marc Semou a montré très justement la conjonction actuelle, mais qui peut évoluer, du rapport très bienveillant de Trump, très très bienveillant à l'égard de Poutine, et disons de la politesse intéressée de Poutine vis-à-vis de Trump. Cette conjonction peut évoluer vu la situation de l'Ukraine et la réaction de Moscou à la proposition de Trump sur la trêve de 30 jours. Ce qui m'a frappé, c'est une violence de volonté de dégagement à n'importe quel prix, n'importe quoi. Je dirais à la limite, le parti de la jeunesse, le parti POT, dont la leader, qui est une femme très riche et qui a d'ailleurs été formée à l'étranger, ce qui est aussi assez paradoxal pour être aussi ethniciste roumanophile et avoir une fortune et une formation à l'étranger. Mais c'est pas grave, on n'est pas à une contradiction près. Cette Anna Maria Gavrila est totalement pro-russe, et elle est soutenue par la jeunesse. Alors, elle n'a pas fait aux élections un score énorme, elle tourne autour de 7%, Mais elle est entendue et elle est candidate à la présidence. Elle déposera sa candidature samedi.
Oui, c'est une figure dont on parle là aujourd'hui, puisque depuis le rejet définitif de la candidature de Georgescu, on a appris cette semaine donc que deux candidats s'étaient présentés, Georges Simion du parti AOUR et Anna Maria Gavrila que vous évoquiez. Et dans une stratégie un peu étonnante, puisqu'ils se présentent tous les deux et en fonction de celui dont la candidature sera validée, l'autre se retirera, c'est cela ?
Oui, alors, ils font semblant, ou redoutent-ils vraiment, ils craindraient qu'il y ait un refus, que leur candidature ne soit pas acceptée, celle de Simion a été posée aujourd'hui, par la commission électorale. Et, selon leur déclaration commune, qui ont reçu ces déclarations, la bénédiction de Georgescu. Ça s'est fait avec l'accord de Georgescu. Celui qui est supposé pouvoir venir en tête, ça serait donc Georges Simion à la tête du parti AOUR, restera et l'autre se désistera. C'est vrai, c'est assez surprenant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque fois qu'il prend la parole, Simion dit bien qu'il s'est présenté pour Caline Georgescu, avec l'accord de Caline Georgescu. C'est bien joué, parce qu'effectivement, la notoriété de Georgescu est plus forte que celle de Simion.
Sylvia Martin, quelles sont les chances, même si c'est encore un peu difficile à ce stade de voir comment l'opinion publique va évoluer depuis le mois de mai, mais quelles sont les chances de ces candidats qui sont classés aussi à l'extrême droite, de récupérer les voix, les intentions de vote qui se portaient sur Caline Georgescu. Je rappelle 40% dans les sondages avant l'invalidation de sa candidature. Donc voilà, quelles sont les chances de ces deux nouveaux candidats de récupérer cet électorat ?
Les semaines et les mois à venir jusqu'aux élections du début du mois de mai prochain seront décisives, en effet, notamment la campagne électorale. Je dirais que d'habitude, lors des campagnes électorales présidentielles en Roumanie, c'est pendant la dernière ligne, les dernières semaines pendant la campagne, que les choses bougent, que les électeurs vont se décider. Et donc, la campagne est toujours extrêmement importante et difficile d'une certaine manière à prévoir. Ceci dit, néanmoins, on peut dire que dans cette direction ultranationaliste, souverainiste, illibérale dont nous parlons maintenant, donc où Simion, Gavril se présentent, il y a une fragmentation. Georgescu a été capable de très vite, avec des moyens soutenus, de coaguler un nombre important d'électeurs. On a vu lors du premier tour, mais il était, si vous voulez, le gourou comme un messie, un gourou d'une secte. Une fois lui rendu inéligible, les dauphins sont nombreux, donc il y a une fragmentation. J'observe quand même une fragmentation sur des leaders, des candidats dans cette direction. Il y a Simion dont nous parlions, il y a Anna Maria Gavril, mais il y a également sur le même type de discours, avec le même ultranationalisme intéressant, un troisième candidat pressenti, anciennement premier ministre, Victor Ponta, qui s'est réinventé au cours de sa carrière politique auprès du Parti social-démocrate à plusieurs reprises, et qui maintenant, c'est-à-dire récemment, depuis 2-3 semaines, on voit qu'il est de plus en plus présent dans le discours public, avec un discours très similaire à celui de « Make America Great Again », donc le discours à la Trump, « Faire la Roumanie grande encore », et donc il a même pastiché un peu le slogan de Trump, et il pousse à fond, de manière discursive, dans ses prises de parole, dans ce discours conservateur, ultranationaliste, que Simion, Georgescu et Anna Maria Gavril le portent aussi. Donc il y a une fragmentation sur ce champ, et c'est vrai que les semaines donc qui viennent seront décisives en termes d'activités de campagne, y compris des autres candidats, ceux qui sont pro-européens, pro-démocrates.
Oui, Marc Zemmour.
Alors, si on regarde les élections législatives de décembre qui s'étaient passées juste après la présidentielle, on avait vu qu'ensemble, les trois partis de l'extrême droite qui représentaient au Parlement pesaient plus que le parti du Premier ministre arrivé en tête. Donc, est-ce que ce risque, aujourd'hui, de la victoire de l'extrême droite, est toujours bien réel? Et en quoi ce serait plus préoccupant que, par exemple, celle d'un populiste, alors là, qui est plus à gauche, comme Fico en Slovaquie, ou d'autres cas similaires en Europe de l'Est?
Catherine Durandin.
Je crois que effectivement la victoire de l'extrême droite est possible, même si le gourou est inéligible. Quant à Victor Ponta, il a quand même un handicap, c'est qu'il vient du passé. C'est-à-dire, c'est un homme qu'on a connu dans des débats houleux au moment de la présidence du président Basescu, au moment où l'un des candidats aujourd'hui à la présidence, Dan Crin-Antonescu était présent. Donc, pour les gens un peu plus âgés, il y a cette mémoire des années 2012, de l'année 2012, et de Victor Ponta, pas très net, pas très clair, assez fragilisé par cette période. Alors, je vois bien monter Ponta, qui finalement va à la pêche, mais il a des handicaps que n'ont pas Simeone ou Anna Maria Gavrila, qui paraissent tout neufs, c'est-à-dire vraiment les bons petits chevaux du dégagisme.
Célia Martin, je voudrais qu'on revienne sur les accusations de coup d'État formulées par les partisans de Georgescu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler quelles sont les raisons juridiques de l'exclusion de la candidature de Georgescu et essayer de comprendre s'il n'y a pas, au-delà des partisans, un malaise de la part d'une partie de la société civile qui ne serait pas forcément partisane de Georgescu après à la fois l'annulation du scrutin, puis le rejet de la candidature de Georgescu? Est-ce que les décisions de la Cour étaient suffisamment motivées?
Il y a eu deux moments, deux épisodes absolument inédits pour l'histoire politique et constitutionnelle roumaine. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises déjà, non, la décision inédite d'annuler le second tour des élections. Et l'arme atomique en termes de démocratie. Et à cette époque-là, la Cour constitutionnelle, non, elle a motivé quand même sa décision, donc en décembre dernier. Oui, ingérence étrangère, vous l'avez rappelé également, mais la Cour constitutionnelle a aussi mis en avant le fait que il y a un danger pour à l'esprit de la Constitution, aux valeurs sur lesquelles est basée la Constitution, les valeurs constitutionnelles démocratiques d'un pays comme la Roumanie, membre de la famille européenne, de l'Union européenne. Donc, il y a cette mise en garde juridique, bien sûr, de la Cour constitutionnelle. Elle a interprété les articles constitutionnels pour rendre son jugement, son avis. Mais également, la Cour constitutionnelle a pris une position politique en parlant de la conformité des élections aux valeurs constitutionnelles démocratiques de l'Europe. Ça, c'est important. Et lorsque, il y a quelques jours, le bureau électoral central a refusé d'enregistrer la candidature de Georgescu, le bureau s'est basé d'une manière cohérente, de point de vue juridique, sur le précédent de la Cour constitutionnelle. Celui donc pour l'annulation du tour des élections, mais également sur un autre précédent de la même Cour constitutionnelle qui date de octobre 2024, lorsque la Cour constitutionnelle a vérifié et a repoussé, rejeté ensuite la candidate d'une autre candidate du parti des mouvements ultranationalistes anti-système. Il s'agissait à cette époque-là de Diana Chouchouak, qui était issue de AUR elle aussi. Elle a ensuite fondé son propre parti, son propre mouvement. Mais en octobre 2024, la Cour constitutionnelle a vérifié donc formellement la forme de la candidature, mais elle a également mis en avant cette idée qu'une candidate, une candidature pour les élections présidentielles doit être conforme aux valeurs constitutionnelles démocratiques. Et donc, la candidature de Georgescu, lorsqu'elle a été repoussée, c'est sur ces deux types de précédents que la candidature a été donc invalidée. de Georgescu.
Catherine Durandin, votre regard sur, encore une fois, la décision de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle est, à vos yeux, aussi suffisamment étayée et solide juridiquement et où est-ce qu'il existe un risque chez une partie de la population d'une rupture de confiance envers les institutions ou de doute qui pourrait s'installer sur le fait que la décision ait été assez bien étayée, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte évidemment anodin que celui d'annuler un scrutin et de refuser une candidature.
Il y a eu pendant plusieurs semaines des enquêtes assez précise sur les financements notamment de la candidature de Georgescu qui prétendait avoir fait une campagne avec 0 euro, ce qui n'était pas le cas, et des hommes d'affaires ont été retrouvés dans des systèmes de blanchiment d'argent dont une partie pourrait venir de Russie. Je suis pas sûre, mais je me trompe peut-être, que la population entre dans les arguments juridiques. Je pense qu'une partie de la population doit trouver que la Cour constitutionnelle a été courageuse et l'autre est complètement offusquée en hurlant contre un déni de démocratie. Mais je ne crois pas que la précision des arguments juridiques pèse beaucoup sur la population. D'un côté, il dénonce la tyrannie, le refus de la démocratie, c'est-à-dire le refus de la candidature de Georgescu. Et de l'autre, je pense qu'un certain nombre d'opposants à Georgescu, à Simion et à Gavrila, considèrent que la commission électorale et la Cour constitutionnelle, qui dernièrement a voté à l'unanimité de ses juges, a été courageuse.
Marc Sémot.
Mais outre ces financements plutôt louche, outre ces hommes d'affaires qui tournent autour de lui, il y a aussi autour de Georgescu toute une ribambelle de personnages absolument sinistres, dont le chef de sa sécurité, un certain Horatiu Portac, un ancien légionnaire français d'ailleurs, qui avait une boîte de mercenaires travaillant en RDC Congo. Et là, ça a montré des choses absolument accablantes, des réserves d'armes, 3 millions de dollars en billets, des kilos d'or, des brochures antisémites à tout va, des proclamations qui se référaient ouvertement au pire néo-nazi roumain de l'entre-deux-guerres, à commencer par le chef de la garde de fer, Mihail Codreanu. Donc c'est quand même très inquiétant aussi, ça, autour de Georgescu.
Oui, ce personnage que vous évoquez, Horatiu Prota, est sous mandat pénal, il a disparu. Enfin, il serait aux Émirats, mais on n'en sait rien.
Ça veut dire qu'il y avait un complot potentiel ?
Je ne crois pas qu'il y ait eu un complot potentiel, mais il y a vraiment une ambiance, un style. Il y a ce personnage et ses dépôts d'armes et sa campagne en Afrique auprès de certains dictateurs. On dit qu'il est payé aussi par les Chinois. Il y a aussi en Dobruja des camps d'entraînement de légionnaires mercenaires qui sont assez proches de l'évêque de Tomis, donc à côté de Constanza, en fait, l'évêque Théodosier, qui lui a appelé, contrairement à ce qu'avait été la position du Saint-Synode, qui n'était pas partisane, cette position, lui, cet évêque, a appelé à voter pour Georgescu. Je ne sais pas s'il y a eu véritablement complot, mais en tout cas, il y a une espèce d'ambiance cinématographique qui n'est pas pour déplaire aux nostalgiques de la culture légionnaire de l'entre-deux-guerres ou des soutiens au maréchal Antonescu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que on a peut-être idéalisé en Roumanie une marche tranquille et merveilleuse de bon élève de l'OTAN, excellente élève de l'OTAN et pilier important de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe, et une marche vers sereine vers l'intégration européenne. On oublie la noirceur des années 90, la violence des années 90. Quelqu'un comme Iliescu qui fait appel aux mineurs de la vallée du Djou pour tabasser les étudiants sur la place de l'université, cela à deux reprises. Quelqu'un d'autre part comme le chef des mineurs qui tente de redescendre sur Bucarest en 1999. On oublie la réapparition florissante du maréchal Antonescu, de ses œuvres. Moi, je voyais sur les grands boulevards de Bucarest, dans les kiosques de petites librairies, réapparaître les œuvres du maréchal Antonescu, préfacées par l'état-major de l'époque. Toute cette montée...
Juste pour donner quelques éléments de contexte, un maréchal qu'on compare parfois à Pétain en France...
Oui, absolument. Oui, à Pétain, en plus efficace, puisqu'il était à Stalingrad avec ses troupes aux côtés des nazis. Donc disons que c'est un Pétain virulent et plus efficace que Pétain ne l'a été.
Et de quelle manière cette histoire-là, cette histoire sombre et violente, Catherine Durantin, remonte-t-elle à la surface aujourd'hui ?
Elle remonte parce qu'elle a été interdite et qu'on a cru que ça marchait. Mais n'oublions pas quand même qu'en 2000, le parti de la Grande Roumanie, qui était un parti nationaliste profondément antisémite, a posé son candidat au premier tour devant Iliescu. Donc on avait le schéma Iliescu, ex-communiste gorbatchevien, ou le fasciste. Et mes amis, qui étaient des amis autour d'une revue qui s'appelle la revue 22, en mémoire du 22 décembre 1989, en se pinçant le nez, ont voté Iliescu pour éviter le pire, c'est-à-dire Vadim Tudor. Alors, Vadim Tudor est décédé. Mais il y a, dans l'air du temps, dans l'histoire, suffisamment de documents ou d'engagements, d'affinités électives précieuses qui peuvent renourrir, dans ce moment de dégagisme de la démocratie, les antidémocrates fascisants.
Et vous parliez aussi de la question du rapport à l'OTAN, du rapport à l'Union européenne. Sylvia Martin, dans la campagne électorale, celle qui s'est déjà déroulée, celle qui va démarrer, comment cette question de l'Europe est-elle évoquée ? Est-ce que vous observez une rupture avec peut-être une époque où le sentiment européen, où la voie européenne, l'avenir européen n'était peut-être plus un sujet de débat ? Est-ce qu'il revient sur la table et de quelle manière ?
Pendant de longues années, au moins pendant ces 20 dernières années, nous, la Roumanie s'est préparée pour intégrer l'Union européenne, pour devenir membre de l'OTAN. En effet, vous le rappelez très bien. Et c'était le discours dominant qui avait une destination à la fois de politique étrangère, régionale, étrangère, mais également c'était un discours pour légitimer les réformes politiques en interne. Et c'était très important. Les sondages pendant plus de 20 ans, les sondages d'opinion, que ce soit fait par les institutions de l'Union européenne, Eurostat, ou bien les sondages internes, montraient une grande majorité des citoyens roumains qui comprenaient que cette politique étrangère pro-européenne, pro-OTAN, pro-occidentale, était également une manière de réformer, améliorer leur propre vie en interne. Les réformes institutionnelles, juridiques, économiques, de développement, de prospérité, etc. Et cela vient de changer progressivement. Les partisans de Georgescu, par exemple, on les découvre, on commence à les étudier de plus en plus et mieux comprendre leurs visions, leurs attentes, leurs angoisses, leur représentation du monde. On découvre que ces partisans de Georgescu, des mouvements d'extrême droite ultranationalistes, ils critiquent l'Union européenne. Même s'il y en a qui ont vécu beaucoup dans les pays de l'Union européenne, l'Italie ou l'Espagne, pays de destination de la diaspora roumaine, de l'immigration économique roumaine, voire la France. Et ils découvrent, donc ils ont une expérience dans ces pays qu'ils commencent à critiquer. Et alors qu'une diaspora, vous le rappelez également, traditionnellement était plutôt pro européenne et plutôt anti-système, critiquait l'État roumain, incapable de répondre par les politiques publiques adéquates qu'ils attendaient. Et donc, il y a un retournement qui est assez progressif, mais il est récent. Mais il est visible. Et donc, les partisans de Georgescu, dans ce vote anti-système, dégagiste, comme disait Catherine Durandin, les tous pourris, sont désenchantés. Il y a un désenchantement par rapport à l'Union européenne aussi, à Bruxelles, les politiques agricoles les plus concrètes, par exemple pour comment manger. Et Bruxelles est accusée d'une sorte de dictature qui est un argument en effet commun aux leaders politiques comme Orban ou Fico en Slovaquie. Donc ça, c'est nouveau et c'est récent. Et pendant la campagne électorale, je pense que ce type de discours, ce type de discussion, de positionnement pour ou contre l'Union européenne et les politiques publiques de l'Union européenne seront importantes, devraient être importantes. Les autres candidats sur non ultranationalistes, disons, ils sont encore timides à ce propos. Et donc, personnellement, j'attends que plus d'arguments explicites, de prendre une position dans les conditions tout à fait troubles de point de vue géopolitique et régional auxquelles nous assistons aujourd'hui.
Vous écoutez Culture Monde. Catherine Durandin et Sylvia Martin sont nos invités pour parler de la situation en Roumanie. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown !
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux !
Assis !
Et le dessin de cette semaine est signé Tjeerds Royaerts, un dessinateur néerlandais. Un dessin qui évoque les discussions actuelles sur l'avenir de la défense européenne. On y voit un groupe d'hommes et de femmes s'activer à ériger une barrière le long de la frontière. Un mur d'un genre un peu particulier puisqu'il est formé de missiles à tête nucléaire. Défense commune, peut-on lire sur une carte que tiennent en main deux personnages. On y voit un drapeau européen protégé par une ligne rouge, défense commune, mais avec l'Ukraine, propose de son côté le président ukrainien Zelensky, qui tente de modifier le tracé de la ligne pour qu'elle inclue l'Ukraine. Une ligne qui n'impressionne guère la Russie, dessinée par Royaerts sous la forme d'un ours aux airs menaçants, puisque celui-ci l'a déjà franchi et qu'il tient dans sa gueule le drapeau ukrainien à moitié arraché. Un dessin à retrouver sur le fil Blue Sky de Culture Monde et sur la page de notre site. Une réaction à nos invités, peut-être Catherine Durandin, à cette caricature.
Oui, je crois qu'on est effectivement complètement dans l'actualité sur cette question du pilier européen de la défense à défaut de défense européenne. Je voudrais revenir sur un point qui rentre dans cette discussion très exactement. C'est sur le fait qu'il y a dans l'extrême droite roumaine une vision très précise du monde, c'est-à-dire une vision de l'Europe qui doit être transformée en une union de nations souveraines, diminuer le pouvoir législatif du Parlement européen, supprimer la Cour de justice européenne et faire de la Commission un instrument strictement technique.
Donc il n'y a pas l'idée de sortir de l'Union européenne, d'abandonner
Non, il suffit de la démolir. C'est un discours qui est très normal pour l'extrême droite européenne.
C'est le même qui se fait aussi, c'est l'Europe des nations.
Absolument.
C'est globalement commun.
Voilà, et c'est à ce point commun que Bardella, Dupont-Aignan et Zemmour ont déploré l'absence de candidature, l'interdiction de la candidature de Georgescu. Donc je veux dire, il y a une vision du monde partagée et qui est commune. Maintenant, la question qui pose quand même problème, c'est l'OTAN. Parce que la Roumanie est véritablement un pilier important de l'OTAN. La France est nation cadre de l'OTAN pour la Roumanie. La France gère un centre militaire à Tchinku, qui est important en Transylvanie, qui est récent. Les Américains ont développé depuis des années des bases, depuis les années 2004-2005, des bases sur les côtes de la mer Noire et avaient en projet, et ont encore, me semble-t-il, en projet, l'extension d'une énorme base à Deveselu, en Holtenie, qui, d'ici 2030, pourrait accueillir 10 000 militaires et leurs familles. Alors la grande question, c'est quid de ce système de sécurité? Les ultra-droites vous répondraient, il n'y a pas besoin de l'OTAN. Et si Georgescu avait été élu, il proposait un référendum pour la sortie de l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est la guerre, et vous savez bien que la Russie, c'est la paix. Alors l'avenir dans la vision...
Ça, c'est le discours.
C'est le discours, oui, c'est pas le mien. L'avenir dans la vision du monde d'avenir, c'est une fédéralisation de l'Ukraine. Et la Roumanie pourrait se servir un peu dans cette fédéralisation de l'Ukraine. Et une fédéralisation de la Moldavie, avec une Transnistrie pro-russe, une Gagaouzie pro-russe, et quelques démocrates autour de Chisinau. C'est précis, c'est clair, c'est un programme.
Pardon, Sylvia Martin, à Bucarest, comment est-ce qu'on perçoit toutes les discussions, tout le débat depuis presque 10 jours maintenant sur la question de la nécessité de réarmer l'Europe suite aux annonces de la présidente de la Commission, des milliards qui vont être débloqués, etc. On a vu la place que ça occupait en France. Comment est-ce qu'en Roumanie, quel écho on a à ces discussions-là sur le réarmement de l'Europe?
Certainement, ce sujet sera au cœur de la campagne électorale qui viendra, mais pour l'instant, le cœur du débat public est autour de Georgescu et compagnie. Le gouvernement de coalition des sociaux-démocrates et des libéraux, et puis le chef de l'État intérimaire, sont hésitants. Le chef de l'État, oui, il est allé a répondu à l'invitation du président Macron. Il est allé aussi à Bruxelles, a rencontré Ursula von der Leyen. Mais il est hésitant. Il n'a pas explicitement dit oui au parapluie européen, pour ainsi dire.
Et comment vous interprétez cette hésitation, pardon?
C'est une hésitation. C'est une hésitation par peur d'abord de provoquer peut-être la Russie. C'est un des arguments de provoquer, c'est-à-dire la Russie et surtout la République de Moldavie voisine et qui est dans une situation tout à fait géopolitiquement précaire par rapport à la Russie et au plan de sécurité plus généraux dans la région et à l'international. Mais c'est également une question de politique publique roumaine, de la Roumanie, depuis des semaines, des mois déjà, donc ce n'est pas récent. Les gouvernements ont produit plusieurs plans de réforme, de relancer les capacités de l'industrie d'armement de la Roumanie. Depuis 2003, on en parle. Les politiques publiques, les mesures ont été insuffisantes, oui. Les dépenses du PIB ont augmenté un petit peu, 2,1% du PIB, donc c'est une augmentation de quelques peu. Mais j'ai l'impression que les institutions de l'État n'ont pas une vision claire sur les priorités militaires de la Roumanie elle-même. Ils sont trop prudents en termes de politique publique, en termes de position internationale, par exemple. Non, le chef de l'État intérimaire, oui, il est intérimaire, donc il sait qu'il sera remplacé, donc il est peut-être pour cette raison moins bavard et moins explicite, mais à mon avis, il hésite parce que tout ce qu'il a dit, c'est que la Roumanie peut se résumer à ce qu'elle a fait déjà depuis 2002, c'est-à-dire d'être un hub, une plaque tournante logistique. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas grande chose non plus. Et en plus, il y a les États-Unis. Une partie de des parlementaires de la coalition gouvernementale aussi, une grande partie du ministère des Affaires étrangères roumain, attendent les États-Unis. Donc il y a les États-Unis traditionnellement ont été vus comme le seul pays capable de protéger et de donner de la vraie sécurité à la Roumanie et non pas l'Union européenne. Donc ce revirement de l'Union européenne est trop récent à leurs esprits.
Et il va falloir un petit peu de temps pour voir.
Ils espèrent que les États-Unis, Trump, sera plus explicite.
Pardon, on arrive presque à la fin de cette émission. Un dernier petit mot, Catherine Durandin, pour conclure.
Je crois que le président intérimaire est très conscient de l'état de la population, des mentalités collectives. Rappelons que lorsque Georgescu a été élu au premier tour et a fait un score important, il s'est écrié « la population a voté pour la paix ». C'est-à-dire pas de parapluie européen militaire et sortir de l'OTAN. Et la garantie de la paix, c'est la Russie.
Merci.
Pour lui.
Merci beaucoup à nos deux intervenantes pour cette discussion. Catherine Durandin, je rappelle, professeure émérite à l'INALCO. Votre dernier ouvrage, Moldavie, le défi, un pari, est paru aux éditions Petra. Et puis je cite aussi votre ouvrage sur la Roumanie, ma Roumanie communiste. C'était aux éditions L'Harmattan en 2023. Merci infiniment Sylvia Martin d'avoir été en direct avec nous depuis Bucarest pour cette discussion. Je rappelle, maîtresse de conférence à l'Université des sciences politiques de Bucarest. Merci beaucoup Marc Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée à l'Europe. Comment le continent fait-il face aux pressions exercées par les États-Unis sur le plan militaire, commercial, technologique et idéologique? Et comment les Européens y répondent-ils? On commence lundi par les questions de défense, le réarmement, quoi qu'il en coûte. Et dans un instant, les midis de culture.